Homère, l'Odyssée, chant 7. Tandis que le patient et divin Odysseus suppliait ainsi Athéna, la vigueur des mulets emportait la jeune vierge vers la ville. Et quand elle fut arrivée aux illustres demeures de son père, elle s'arrêta dans le vestibule. Et de tous côtés, ses frères, semblables aux immortels, s'empressèrent autour d'elle et détachèrent les mulets du char, et ils portèrent les vêtements dans la demeure. Puis la Vierge rentra dans sa chambre, où la vieille servante Épirote Eurymédusa alluma du feu. Des nefs à deux rangs d'aviron l'avaient autrefois amenée du pays des Épirotes, et on l'avait donnée en récompense à Alkinoos, parce qu'il commandait à tous les Phéaquiens et que le peuple l'écoutait comme un dieu. Elle avait allaité Nausicaa au bras blanc dans la maison royale, et elle allumait son feu et elle préparait son repas. Et alors, Odysseus se leva pour aller à la ville, et Athéna, pleine de bienveillance pour lui, l'enveloppa d'un épais brouillard, de peur qu'un des Phéaquiens insolents, le rencontrant, l'outragea par ses paroles, et lui demanda qui il était. Mais quand il fut entré dans la belle ville, alors, Athéna, la déesse aux yeux clairs, sous la figure d'une jeune vierge portant une urne, s'arrêta devant lui, et le divin Odysseus l'interrogea. Ô mon enfant, ne pourrais-tu me montrer la demeure du héros Alkinoos qui commande parmi les hommes de ce pays? Je viens ici d'une terre lointaine et étrangère, comme un hôte ayant subi beaucoup de maux, et je ne connais aucun des hommes qui habitent cette ville et cette terre. Et la déesse aux yeux clairs Athéna lui répondit. Hôte vénérable, je te montrerai la demeure que tu me demandes, car elle est auprès de celle de mon père irréprochable. Mais viens en silence, et je t'indiquerai le chemin. Ne parle point et n'interroge aucun de ces hommes, car ils n'aiment point les étrangers, et ils ne reçoivent point en amitié quiconque vient de loin. Confiant dans leur nef légère et rapide, ils traversent les grandes eaux, et celui qui ébranle la terre leur a donné des nefs rapides comme l'aile des oiseaux et comme la pensée. Ayant ainsi parlé, Pallas Athéna le précéda promptement, et il marcha derrière la déesse, et les illustres navigateurs phéaquiens ne le virent point, tandis qu'il traversait la ville au milieu d'eux, car Athéna, la vénérable déesse aux beaux cheveux, ne le permettait point, ayant enveloppé Odysseus d'un épais brouillard, dans sa bienveillance pour lui. Et Odysseus admirait le port, les nefs égales, l'agora des héros, et les longues murailles fortifiées de hauts pieux, admirables à voir. Et quand ils furent arrivés à l'illustre demeure du roi, Athéna, la déesse aux yeux clairs, lui parla d'abord. Voici, mon hôte, mon père, la demeure que tu m'as demandé de te montrer. Tu trouveras les rois, nourrissons de Zeus, prenant leur repas. Entre, et ne crains rien dans ton âme. D'où qu'ils viennent, l'homme courageux est celui qui accomplit le mieux tout ce qu'il fait. Va d'abord à la reine dans la maison royale. Son nom est Arrêté, et elle le mérite, et elle descend des mêmes parents qui ont engendré le roi Alkinoos. Poséidon, qui ébranle la terre, engendra Nausithoos, qui conçut Périboïa, la plus belle des femmes et la plus jeune fille du magnanime Eurymédon, qui commanda autrefois aux fiers géants. Mais il perdit son peuple impie et périt lui-même. Poséidon s'unit à Périboïa, et il engendra le magnanime Nausithoos, qui commanda aux Phéaquiens. Et Nausithoos engendra Rhexénor et Alkinoos. Apollon, à l'arc d'argent, frappa le premier qui venait de se marier dans la maison royale, et qui ne laissa point de fils, mais une fille unique, Arrêté, qu'épousa Alkinoos. Et il l'a honorée plus que ne sont honorées toutes les autres femmes qui, sur la terre, gouvernent leur maison sous la puissance de leur mari. Et elle est honorée par ses chers enfants, non moins que par Alkinoos, ainsi que par les peuples qui la regardent comme une déesse, et qui recueillent ses paroles quand elle marche dans la ville. Elle ne manque jamais de bonnes pensées dans son esprit, et elle leur est bienveillante, et elle apaise leurs différends. Si elle t'est favorable dans son âme, tu peux espérer revoir tes amis et rentrer dans ta haute demeure et dans la terre de ta patrie. Ayant ainsi parlé, Athéna aux yeux clairs s'envola sur la mer indomptée, et elle abandonna l'aimable Scheria, et elle arriva à Marathon, et étant parvenue dans Athènes aux larges rues, elle entra dans la forte demeure d'Érechtheus. Et Odysseus se dirigea vers l'illustre maison d'Alkinoos, et il s'arrêta, l'âme pleine de pensées, avant de fouler le pavé d'airain. En effet, la haute demeure du magnanime Alkinoos resplendissait comme Hélios ou Sélénée. De murs solides d'airain des deux côtés du seuil enfermaient la cour intérieure, et leurs pinacles étaient d'émail. Et des portes d'or fermaient la solide demeure, et les poteaux des portes étaient d'argent sur le seuil d'airain argenté, et au-dessus il y avait une corniche d'or. Et des deux côtés il y avait des chiens d'or et d'argent, qu'Héphaïstos avait fait très habilement, afin qu'ils gardassent la maison du magnanime Alkinoos, étant immortel et ne devant point vieillir. Dans la cour, autour du mur, des deux côtés, étaient des trônes solides, rangés jusqu'à l'entrée intérieure et recouverts de légers péplos, ouvrage des femmes. Là siégeaient les princes des Phéaquiens, mangeant et buvant toute l'année. Et des figures de jeunes hommes en or se dressaient sur de beaux autels, portant aux mains des torches flambantes qui éclairaient pendant la nuit les convives dans la demeure. Et 50 servantes habitaient la maison, et les unes broyaient sous la meule le grain mûr, et les autres, assises, tissaient les toiles et tournaient la quenouille agitée comme les feuilles du haut peuplier, et une huile liquide distillait de la trame des tissus. Autant les Phéaquiens étaient les plus habiles de tous les hommes pour voguer en mer sur une nef rapide, autant leurs femmes l'emportaient pour travailler les toiles, et Athéna leur avait accordé d'accomplir de très beaux et très habiles ouvrages. Et au-delà de la cour, auprès des portes, il y avait un grand jardin de 4 arpents, entouré de tous côtés par une haie. Là, croissaient de grands arbres florissants qui produisaient les uns de la poire, les uns la poire et la grenade, les autres les belles oranges, les douces figues et les vertes olives. Et jamais ces fruits ne manquaient ni ne cessaient, et ils duraient tout l'hiver et tout l'été. Et Zéphyros, en soufflant, faisait croître les uns et mûrir les autres. La poire succédait à la poire, la pomme mûrissait après la pomme, et la grappe après la grappe, et la figue après la figue. Là, sur la vigne fructueuse, le raisin séchait, sous l'ardeur de Hélios, en un lieu découvert, et là, il était cueilli et foulé, et parmi les grappes, les unes perdaient leurs fleurs, tandis que d'autres mûrissaient. Et à la suite du jardin, il y avait un verger qui produisait abondamment toute l'année. Il y avait deux sources, dont l'une courait à travers tout le jardin, tandis que l'autre jaillissait sous le seuil de la cour, devant la haute demeure, et les citoyens venaient y puiser de l'eau. Et tels étaient les splendides présents des dieux dans la demeure d'Alkinoos. Le patient et divin Odysseus s'étant arrêté, admira toutes ces choses, et quand il les eut admirées, il passa rapidement le seuil de la demeure. Et il trouva les princes et les chefs des Phéaquiens faisant des libations aux vigilants tueurs d'Argos, car ils finissaient par lui quand ils songeaient à gagner leur lit. Et le divin et patient Odysseus traversa la demeure, enveloppé de l'épais brouillard, que Pallas Athéna avait répandu autour de lui, et il parvint à Arrêté et au roi Alkinoos. Et Odysseus entoura de ses bras les genoux d'Arrêté, et le brouillard divin tomba, et à sa vue, tous restèrent muets dans la demeure, et ils l'admiraient. Mais Odysseus fit cette prière. Arrêté, fille du divin Rexénor, je viens à tes genoux et vers ton mari, et vers ses convives après avoir beaucoup souffert. Que les dieux leur accordent de vivre heureusement et de laisser à leurs enfants les biens qui sont dans leur demeure et les récompenses que le peuple leur a données. Mais préparez mon retour afin que j'arrive promptement dans ma patrie, car il y a longtemps que je subis de nombreuses misères loin de mes amis. Ayant ainsi parlé, il s'assit dans la cendre du foyer, devant le feu, et tous restaient muets. Enfin, le vieux héros Échénéos parla ainsi. C'était le plus âgé de tous les Phéaquiens, et il savait beaucoup de choses anciennes, et il l'emportait sur tous par son éloquence. Plein de sagesse, il parla ainsi au milieu de tous. Alkinoos, il n'est ni bon ni convenable pour toi que ton hôte soit assis dans les cendres du foyer. Tes convives attendent tous ta décision, mais hâte-toi, fais asseoir ton hôte sur un trône orné de clous d'argent et commande au héros de verser du vin, afin que nous fassions des libations à Zeus foudroyant qui accompagne les suppliants vénérables. Pendant ce temps, l'économe offrira à ton hôte les mets qui sont dans la demeure. Dès que la force sacrée d'Alcinoos eut entendu ces paroles, il prit par la main le sage et subtil Odysseus, et il le fit lever du foyer, et il le fit asseoir sur un trône brillant, d'où s'était retiré son fils, le brave Laodamas, qui siégeait à côté de lui et qu'il aimait le plus. Une servante versa de l'eau d'une belle aiguière d'or dans un bassin d'argent pour qu'il lavât ses mains, et elle dressa devant lui une table polie. Et la vénérable économe, gracieuse pour tous, apporta le pain et de nombreux mets, et le sage et divin Odysseus buvait et mangeait. Alors Alcinoos dit à un héros: Pontonoos, mêle le vin dans le cratère et distribue-le à tous dans la demeure, afin que nous fassions les libations à Zeus foudroyant qui accompagne les suppliants vénérables. Il parla ainsi, et Pontonoos mêla le doux vin et le distribua en goûtant d'abord à toutes les coupes. Et ils firent des libations et ils burent autant que leur âme le désirait, et Alcinoos leur parla ainsi: Écoutez-moi, prince et chef des Phéaquiens, afin que je dise ce que mon cœur m'inspire dans ma poitrine. Maintenant que le repas est achevé, allez dormir dans vos demeures. Demain matin, ayant convoqué les vieillards, nous exercerons l'hospitalité envers notre hôte dans ma maison, et nous ferons de justes sacrifices aux dieux, puis nous songerons au retour de notre hôte, afin que sans peine et sans douleur, et par nos soins, il arrive plein de joie dans la terre de sa patrie, quand même elle serait très lointaine. Et il ne subira plus ni maux ni misère jusqu'à ce qu'il ait foulé sa terre natale. Là, il subira ensuite la destinée que les lourdes moires lui ont filée dès l'instant où sa mère l'enfanta. Qui sait s'il n'est pas un de ces immortels descendus de l'Ouranos? Les dieux auraient ainsi médité quelque autre dessein, car ils se sont souvent en effet manifestés à nous quand nous leur avons offert d'illustres hécatombes, et ils se sont assis à nos repas auprès de nous et comme nous, et si un voyageur phéaquien les rencontre seuls sur la route, ils ne se cachent point de lui, car nous sommes leurs parents, de même que les cyclopes et la race sauvage des géants. Et le prudent Odysseus lui répondit: Alcinoos, que d'autres pensées soient dans ton esprit. Je ne suis point semblable aux immortels qui habitent le large Ouranos, ni par l'aspect, ni par la démarche, mais je ressemble aux hommes mortels, de ceux que vous savez être les plus accablés de misère. C'est à ceux-ci que je suis semblable par mes maux, et les douleurs infinies que je pourrais raconter, certes, je les ai toutes souffertes par la volonté des dieux. Mais laissez-moi prendre mon repas malgré ma tristesse, car il n'est rien de pire qu'un ventre affamé, et il ne se laisse pas oublier par l'homme le plus affligé et dont l'esprit est le plus tourmenté d'inquiétude. Ainsi, j'ai dans l'âme un grand deuil, et la faim et la soif m'ordonnent de manger et de boire et de me rassasier quelques maux que j'ai subis. Mais hâtez-vous, dès qu'Eos reparaîtra, de me renvoyer, malheureux que je suis, dans ma patrie, afin qu'après avoir tant souffert, la vie ne me quitte pas sans que j'aie revu mes biens, mes serviteurs et ma haute demeure. Il parla ainsi, et tous l'applaudirent, et ils s'exhortaient à reconduire leur hôte, parce qu'il avait parlé convenablement. Puis, ayant fait des libations et bu autant que leur âme le désirait, ils allèrent dormir chacun dans sa demeure. Mais le divin Odysseus resta, et auprès de lui, Arété et le divin Alcinoos s'assirent, et les servantes emportèrent les vases du repas. Et Arété au bras blanc parla la première, ayant reconnu le manteau, la tunique, les beaux vêtements qu'elle avait faits elle-même avec ses femmes. Et elle dit à Odysseus ces paroles ailées: Mon hôte, je t'interrogerai la première. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui t'a donné ces vêtements? Ne dis-tu pas qu'errant sur la mer tu es venu ici? Et le prudent Odysseus lui répondit: Il me serait difficile, reine, de raconter de suite tous les maux dont les dieux ouraniens m'ont accablé, mais je te dirai ce que tu me demandes d'abord. Il y a au milieu de la mer une île, Ogygié, qu'habite Calypso, déesse dangereuse aux beaux cheveux, fille rusée d'Atlas, et aucun des dieux, ni des hommes mortels n'habite avec elle. Un démon m'y conduisit seul, malheureux que j'étais, car Zeus, d'un coup de sa blanche foudre, avait fendu en deux ma nef rapide au milieu de la noire mer où tous mes braves compagnons périrent. Et moi, serrant de mes bras la carène de ma nef au double rang d'aviron, je fus emporté pendant 9 jours, et dans la 10e nuit noire, les dieux me poussèrent dans l'île Ogygiée où habitait Calypso, la déesse dangereuse aux beaux cheveux. Et elle m'accueillit avec bienveillance, et elle me nourrit, et elle me disait qu'elle me rendrait immortelle et qu'elle m'affranchirait pour toujours de la vieillesse, mais elle ne put persuader mon cœur dans ma poitrine. Et je passai là 7 années, et je mouillai de mes larmes les vêtements immortels que m'avait donnés Calypso. Mais quand vint la 8e année, alors elle me pressa elle-même de m'en retourner, soit par ordre de Zeus, soit que son cœur eût changé. Elle me renvoya sur un radeau lié de cordes, et elle me donna beaucoup de pain et de vin, et elle me couvrit de vêtements divins, et elle me suscita un vent propice et doux. Je naviguai pendant 17 jours, faisant ma route sur la mer. Et le 18e jour, les montagnes ombragées de votre terre m'apparurent, et mon cher cœur fut joyeux. Malheureux, j'allais être accablé de nouvelles et nombreuses misères que devait m'envoyer Poséidon qui ébranle la terre. Et il excita les vents qui m'arrêtèrent en chemin, et il souleva la mer immense, et il voulut que les flots, tandis que je gémissais, accablassent le radeau, que la tempête dispersa, et je nageai fendant les eaux jusqu'à ce que le vent et le flot m'eurent porté à terre, où la mer me jeta d'abord contre de grands rochers, puis me porta en un lieu plus favorable, car je nageai de nouveau jusqu'au fleuve, à un endroit accessible, libre de rochers et à l'abri du vent. Et je raffermis mon esprit, et la nuit divine arriva. Puis, étant sorti du fleuve tombé de Zeus, je me couchai sous les arbustes, où j'amassai des feuilles, et un dieu m'envoya un profond sommeil. Là, bien qu'affligé dans mon cher cœur, je dormis toute la nuit jusqu'au matin, et tout le jour. Et Hélios tombait, et le doux sommeil me quitta. Et j'entendis les servantes de ta fille qui jouaient sur le rivage. Et je la vis elle-même, au milieu de toutes, semblable aux immortels. Je la suppliai, et elle montra une sagesse excellente, bien supérieure à celle qu'on peut espérer d'une jeune fille, car la jeunesse, en effet, est toujours imprudente. Et elle me donna aussitôt de la nourriture et du vin rouge, et elle me fit baigner dans le fleuve, et elle me donna des vêtements. J'ai dit toute la vérité, malgré mon affliction. Et Alcinoos, se lui répondant, lui dit « Mon hôte, certes, ma fille n'a point agi convenablement, puisqu'elle ne t'a point conduit avec ses servantes dans ma demeure, car tu l'avais suppliée la première. » Et le subtil Odysseus lui répondit « Héros, ne blâme point à cause de moi la jeune vierge irréprochable. Elle m'a ordonné de la suivre avec ses femmes, mais je ne l'ai point voulu, craignant de t'irriter si tu avais vu cela. Car nous, race des hommes, sommes soupçonneux sur la terre. » Et Alcinoos, se lui répondant, dit « Mon cher hôte, mon cher cœur n'a point coutume de s'irriter sans raison dans ma poitrine, et les choses équitables sont toujours les plus puissantes sur moi. Plaise au père Zeus, à Athéna, à Apollon, que tel que tu es, et sentant en toutes choses comme moi, tu veuilles rester, épouser ma fille, être appelé mon gendre. Je te donnerai une demeure et des biens si tu voulais rester. Mais aucun des Phéaquiens ne te retiendra malgré toi, car ceci ne serait point agréable au père Zeus. Afin que tu le saches bien, demain je déciderai ton retour. Jusque-là, dors, dompté par le sommeil, et mes hommes profiteront du temps paisible afin que tu parviennes dans ta patrie et dans ta demeure où partout il te plaira d'aller, même par-delà le boyer, que ceux de notre peuple qui l'ont vu disent la plus lointaine des terres, quand ils y conduirent le blond Radamante pour visiter Tityos, le fils de Gaïa. Ils y allèrent et en revinrent en un seul jour. Tu sauras par toi-même combien mes nefs et mes jeunes hommes sont habiles à frapper la mer de leurs avirons. Il parla ainsi, Et le subtil et divin Odysseus, plein de joie, fit cette supplication. Père Zeus, qu'il te plaise qu'Alcinous accomplisse ce qu'il promet, et que sa gloire soit immortelle sur la terre féconde si je rentre dans ma patrie. Et tandis qu'il se parlait ainsi, Arrêté ordonna aux servantes aux bras blancs de dresser un lit sous le portique, d'y mettre plusieurs couvertures pourprées et d'étendre par-dessus des tapis et des manteaux les nœuds. Et les servantes sortirent de la demeure en portant des torches flambantes, et elles dressèrent un beau lit à la hâte, et s'approchant d'Odysseus, elles lui dirent « Lève-toi, notre hôte, et va dormir, ton lit est préparé. » Elles parlèrent ainsi, et il lui sembla doux de dormir, et ainsi, le divin et patient Odysseus s'endormit dans un lit profond, sous le portique sonore, et Alcinoos dormait aussi au fond de sa haute demeure, et auprès de lui, la reine, ayant préparé le lit, se coucha.